Il y a quelque chose d'omni-enveloppant et donc d'infiniment ambitieux et tout à la fois irritant dans la phénoménologie. Lors d'une conférence il y a quelques mois, un collègue non-phénoménologue faisait remarquer avec amusement et une pointe d'agacement que quand on discute avec les phénoménologues, on finit toujours par s'entendre dire que la thèse que l'on est en train de défendre, le problème que l'on est en train de mettre au jour, ont déjà été défendus ou étaient déjà examinés par Husserl. Tout est déjà dans Husserl. Alors Husserl lui-même, dans Philosophie première, entreprend une histoire de la philosophie repensée selon l'axe suivant. C'est la description de toutes ces tentatives manquées d'instituer la phénoménologie. Cet appel constant chez absolument tous les philosophes depuis l'Antiquité, entre malentendus et aveuglement et avancés à tâtons, à ce que Husserl finalement a accompli. La phénoménologie, enfin consciente d'elle-même, est pleinement en possession de sa méthode véritable. Merleau-Ponty reprend ce thème dans l'avant-propos de la phénoménologie de la perception, avec un peu plus de distance. Alors je cite, « La phénoménologie est en route depuis longtemps. Ses disciples la retrouvent partout, dans Hegel, dans Kierkegaard bien sûr, mais aussi dans Marx, dans Nietzsche, dans Freud. Alors bien sûr, je cite encore, « Nous ne trouvons dans les textes que ce que nous y avons mis. » Reconnaît quand même conseil de Merleau-Ponty. « Mais, je continue la citation, c'est en nous-mêmes que nous trouverons l'unité de la phénoménologie et son vrai sens. » La question n'est pas tant de compter les citations que de fixer et objectiver cette phénoménologie pour nous, qui fait qu'en lisant Husserl ou Heidegger, plusieurs de nos contemporains ont eu le sentiment bien moins de rencontrer une philosophie nouvelle que de reconnaître ce qu'ils attendaient. Peut-être comprendrons-nous alors pourquoi la phénoménologie est demeurée longtemps à l'état de commencement, de problème et de vœux. Fin de citation. Alors il est en effet impossible de comprendre la phénoménologie si l'on ne comprend pas qu'elle se situe au-delà des théories constituées, dans le projet de retourner aux choses mêmes. C'est une formule célèbre, hein, de dire ce qui est. Alors retourner aux choses mêmes, c'est Husserl, dire ce qui est, c'est Heidegger. Bien évidemment, le concept de chose même ou la définition de ce que l'on appelle penser et de dire ce qui est n'émerge pas indépendamment de tout édifice théorique. Mais c'est aussi une caractéristique remarquable de la phénoménologie que d'intégrer de profonds bouleversements de ses propres cadres théoriques, conceptuels et même méthodiques au nom d'une attention accrue et plus juste à l'expérience vécue. Ainsi, Husserl invite les phénoménologues à former et reformer des concepts qu'il appelle plastiques, morphologiques, pour rester au plus près de la myriade mouvante des phénomènes. Et il condamne une pensée qui sauve ces concepts à tout prix. C'est, dit-il, une pensée claire et cohérente, mais morte. Ainsi également, Merleau-Ponty considère l'échec de la réduction phénoménologique chez Husserl, l'impossibilité de remonter à ce qui serait un sujet transcendantal absolu. Il reste toujours quelque chose de notre situation, du sujet empirique. Eh bien, il considère l'échec de la réduction comme un succès de la phénoménologie. Donc il y a aussi ce renversement qui consiste à finalement admettre que ce que Husserl voulait faire, il n'a pas réussi à le faire, mais tant mieux, finalement, c'est au fond en cohérence avec le projet initial, ce qui est toujours un petit peu perturbant, justement, quand on étudie la phénoménologie. Donc l'on ne rejoint pas, contrairement à ce que suggérait d'abord Husserl, par la grâce de la réduction, un ego absolu, que l'on aurait toujours été, ce que Husserl, dans un premier temps, a envisagé. La phénoménalité résiste. Eh bien, soit, dit Merleau-Ponty, la phénoménologie n'a qu'à changer ses cadres. Ce faisant, elle ne se trahit pas. Donc on reste fidèle à l'expérience plutôt qu'au concept, plutôt qu'aux théories. Mais ce faisant, la phénoménologie se rend vulnérable à deux critiques corrélatives. Alors je pense d'abord à l'attaque deleuzienne, à certains égards parente d'une critique lévinassienne de Husserl, contre la phénoménologie, ciblant justement ses compromissions avec ce que Deleuze appelle la transcendance, une certaine transcendance phénoménologique, qui est aussi, selon Deleuze, un grand « dedans », avec un « D » majuscule, omni-englobant, donc la conscience, l'intentionnalité, l'ego transcendantal, le monde, hein, tout est monde, tout est signification, tout est chair chez Merleau-Ponty. La chair du monde, hein, donc effectivement, il y a un côté très enveloppant, très englobant. Universalisant aussi, Corinne l'a bien souligné tout à l'heure, l'Europe universalisante aussi hein, chez Husserl. Et donc voilà, ce sont autant d'aspects, en effet, très caractéristiques de la phénoménologie que Deleuze supporte mal. La seconde critique est formulée dans une version extrême par Tom Sparrow, dans un ouvrage publié récemment. Alors, je ne sais pas s'il a fait grand bruit en France, je ne suis pas sûre, mais qui semble se tailler une place respectable sur la scène anglophone. Tant et si bien que je me trouve souvent forcée de donner mon avis à son sujet face à des questions répétées des étudiants. Son titre, « La fin de la phénoménologie ». Alors, ce n'est pas un monument de subtilité, parce que c'est effectivement une critique extrêmement radicale, mais justement, l'auteur radicalise et donne hâtivement le dernier mot à des objections qui sont en soi, à l'état d'objection, tout à fait légitimes. Tom Sparrow affirme ainsi que la phénoménologie est tellement diverse et métamorphique qu'elle s'est vidée de son sens. Il observe justement que les phénoménologues se trouvent quelque peu embarrassés lorsqu'il s'agit de définir leur champ. On oscille entre une définition stricte d'un socle de concepts et de méthodes fondamentaux, bon, le sujet transcendantal par exemple, la réduction, l'époké, la critique du naturalisme, donc d'une part, et d'autre part, la volonté de n'exclure aucun des grands auteurs qui ont contribué au développement de la phénoménologie, en fait toujours en la critiquant d'une façon ou d'une autre, ou en s'inspirant très vaguement de certains de ses principes. Donc on peut aussi se demander, bon, est-ce qu'on intègre Heidegger dans la phénoménologie? Est-ce qu'on intègre Arendt, Bachelard, Derrida? Tous prennent leur distance. On a parlé de Lévinas, c'est la même question. Et donc c'est aussi ce que Dermot Moran décrit de manière frappante. Hein, l'histoire de la phénoménologie, dit-il, est l'histoire des hérésies de la phénoménologie et de la théorie de Husserl. Alors selon cette seconde perspective, aucune contestation, y compris des éléments d'un prétendu socle fondamental, ne semble exclue par principe. Alors on peut penser aux phénoménologies asubjectives. Donc théoriquement, on a toujours une phénoménologie, mais ça n'est plus centré sur un sujet. En quel sens c'est encore de la phénoménologie quand on connaît l'importance du sujet transcendantal chez Husserl? On peut penser de nouveau à l'échec de la réduction saluée par Merleau-Ponty. Donc on aurait une phénoménologie sans réduction. Est-ce que c'est encore la phénoménologie? Est-ce qu'on n'est pas en train de diluer le concept? On peut penser aussi au mouvement de naturalisation de la phénoménologie. Alors le terme phénoménologie ne désigne-t-il pas, finalement, quelque chose comme un vague air de famille? Et ça, c'est ce qui me semble la critique la plus juste, la plus intéressante, la plus perturbante pour les phénoménologues avancée par Tom Sparrow. Et si l'on donne une définition en termes de méthode ou de contenu théorique, par exemple, on pourrait dire la phénoménologie, c'est la description de l'expérience vécue, l'étude des structures fondamentales de la pensée et de l'existence. Si on donne cette définition, est-ce que ce n'est pas une définition si vague qu'elle s'appliquerait finalement à de très nombreux courants au-delà de la phénoménologie, bien au-delà de ce qui est habituellement défini comme le champ phénoménologique. Donc j'en viens au titre de mon intervention, les corps fantastiques de la phénoménologie. J'entends fantastique en plusieurs sens. Il s'agit d'abord de souligner l'incroyable capacité de métamorphose de la phénoménologie. Je viens d'en donner un aperçu. Une labilité qui peut laisser perplexe, qui a quelque chose de stupéfiant. C'est aussi une des connotations du terme fantastique. Donc cette ligne flexueuse, cette ligne de la phénoménologie, de l'histoire de la phénoménologie, cette ligne flexueuse à peine prévisible, qui trace une cohérence tout à la fois têtue et insaisissable, s'évanouit naturellement sous la main malhabile du saint Thomas réaliste et positiviste en quête de définition massive. La phénoménologie mystifie en utilisant le miroitement et le bouger, peut-être comme sa méthode même. Alors, corps fantastique signifie également qu'il y a un sens philosophique à chercher la phénoménologie dans son corps, dans ses corps individuels, avant de la chercher dans une prétendue essence parfaitement auto-coïncidente. C'est aussi un enjeu phénoménologique crucial que d'étudier l'émergence des idées dans les corps. Corinne nous l'a aussi bien expliqué tout à l'heure. Dans le sens dans le sensible. Et donc de reconnaître les pouvoirs fantastiques des corps. Parce que si on cherche l'émergence de la pensée, du savoir, de l'éthique dans les corps sont finalement avant tout compris comme, disons, lieu d'un pouvoir extraordinaire. Donc fantastique et alors fantastique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Évidemment, à l'oral, ça n'est pas très clair, mais fantastique avec un F et fantastique PH. Par référence aux structures de Fantasia. Alors Fantasia PH, hein, c'est un Fantasia PH A-N-T-A-S-I-A. C'est un concept important chez Husserl. C'est sa définition de la fantaisie, d'une certaine capacité d'imagination. C'est un peu technique, je vais l'expliquer dans ma première partie. Husserl insiste beaucoup sur cette expérience de la fantaisie. Et sur ce caractère, sur le caractère justement aussi très, très étrange, mystifiant justement de l'expérience de fantaisie. Ça signifie finalement, si on veut avoir une description phénoménologique, disons, fidèle à ce dont on fait l'expérience, être ici et là-bas. Quand je lis un roman, par exemple, quand je suis à la fois dans mon fauteuil, c'est une description très classique en phénoménologie, et dans le monde fictif, dans le monde, je ne sais pas, moi, des licornes ou dans le monde des Mabo Bovary, par exemple. Et donc, il y a une sorte d'ubiquité qui est assez étrange aussi pour un positiviste. C'est se diffracter également en mille variations sur un thème, se projeter virtuellement dans différentes perspectives. Mon corps est plus fondamentalement un corps imaginaire, écrit Merleau-Ponty dans une note de travail de 1960. Alors je reviendrai aussi parce que c'est une note extrêmement étrange. Convenons que parler des corps fantastiques de la phénoménologie, c'est encore une analogie glissante. Alors, donc il faudra que je m'explique. Elle est suggérée, j'y reviendrai, par Merleau-Ponty dans une certaine mesure, mais il reste à vérifier sa pertinence et sa signification exacte. L'enjeu est aussi de défendre la thèse selon laquelle ces analogies, donc parler de corps fantastique, parler de chair du monde, sont le moyen nécessaire de dire ce qui est. Le lien entre phénoménologie et fiction est mis en valeur par Husserl à de nombreuses reprises, notamment dans la fameuse affirmation, c'est probablement une des plus fameuses, selon laquelle la fiction constitue l'élément vital de la phénoménologie, comme de toutes les sciences eidétiques. Je cite ici Husserl, « La fiction est la source où s'alimente la connaissance des vérités éternelles ». Donc en mettant l'accent sur les corps fantastiques, j'entends proposer une interprétation non intellectualiste de ce fameux passage, justement en prenant au sérieux la référence à l'imagination comme mouvement de variation qui ne s'affranchit jamais du sensible et donc jamais des corps. Donc mon hypothèse sera que la phénoménologie est aussi directement influencée par ce qu'elle entend dévoiler, les phénomènes, mais en fait plus précisément des phénomènes qui sont eux-mêmes fantastiques. Elle entend dire ce qui est, mais ce qui est aussi fondamentalement évasif, ambigu. Donc là, on reconnaît bien la trace de Merleau-Ponty, puisque l'ambiguïté est au cœur de la phénoménologie merleau-pontienne. La phénoménologie est donc, et doit toujours être soucieuse de son incarnation, collée au phénomène. Elle doit finalement développer un corps suffisamment réel, ancré, objectivable et suffisamment labile. Et donc, il y a toujours une tension en phénoménologie, et donc un risque permanent de donner trop à l'un ou à l'autre. Alors comment comprendre la manière dont la phénoménologie articule corps et fiction? Ce sera une des questions que je vais aborder dans cet exposé. Ce sera aussi une manière de comprendre comment la phénoménologie peut justement être omni-enveloppante, c'était ma première observation, sans nécessairement être étouffante, et en quoi cela nous oblige. Alors je vais commencer par expliquer un peu plus ce qu'est l'imaginaire dans une perspective phénoménologique. Comment Husserl notamment, Merleau-Ponty ensuite, puisque ce sont vraiment les deux auteurs qui, à mon avis, vont le plus loin sur cette question, même si Sartre est peut-être le plus célèbre, puisqu'il a publié des ouvrages dont le titre fait référence explicitement à l'imagination et l'imaginaire, mais finalement, on pourra en discuter, il me semble qu'il est, par certains aspects, peut-être un peu plus classique, finalement, que Husserl et Merleau-Ponty. Alors Husserl, justement, dans un recueil de textes des Husserliana, le recueil 23, réfléchit de façon et analyse de façon très très détaillée les expériences d'imagination, d'imaginaire, de fantaisie, etc. Alors Husserl part d'une volonté de reconnaître la différence phénoménologique entre percevoir et imaginer. La perception est, dans la phénoménologie de Husserl, l'expérience originaire. C'est vraiment l'expérience fondamentale, proto-expérience, Ur Erfahrung. Je cite notamment dans IDN 1, « Tous les autres actes d'expérience tirent une grande partie de leur fondation de la perception. La perception est la conscience de la présence propre en personne d'un objet individuel. Tandis que la présence en image est plus flottante, bien entendu, et une des manières de la décrire chez Husserl est de dire qu'elle est quasi-présence. Il utilise ce concept de quasi, qui est un peu ambigu, je vais y revenir. Pour Husserl, il est crucial de maintenir une distinction rigoureuse entre les fantasmes et les images, d'une part, et la perception, d'autre part. Alors, premièrement, parce que ce sont des phénomènes différents, tout simplement. Ils ne sont pas vécus comme identiques. Et donc ici, si on veut être bon phénoménologue, on doit décrire ce que l'on vit. Et de fait, tout le monde comprendra que quand je dis « j'imagine » et quand je dis « je perçois », je ne dis pas la même chose. Et je ne vis pas la même chose. Deuxièmement, et là on est sur des questions un tout petit peu plus déjà théoriques, presque métaphysiques, il est important de sauver la perception comme une source fiable d'expérience de la réalité. C'est très important pour la phénoménologie, de sauver la perception comme finalement expérience de la transcendance, hein, de ce qui me résiste, de ce qui n'est pas moi, de ce qui est réel, afin de ne pas tout réduire à une invention de l'imagination humaine. Si on commence à dire que ce que imaginer, percevoir, au fond, ce sont deux expériences homogènes, alors on prend un gros risque qui est de dire que tout, finalement, se réduit à des représentations, tout se réduit à des fantasmes. Donc c'est fondamental pour Husserl, et on sent hein, quand on lit Husserl qu'il est toujours très très important de mettre la perception en avant, alors d'une façon qui est aussi un peu problématique, parce que cette idée de présence pure, hein, de donation de la chose même dans la perception, et disons une description qui peut poser quelques problèmes, qui n'est pas nécessairement juste phénoménologiquement. On comprend son importance pour des raisons théoriques et encore une fois métaphysiques, mais si on veut vraiment être comment dire, un phénoménologue proche du concret, proche des choses, est-ce que vraiment la perception est une donation une présence pure ? Probablement pas. Et en fait, Husserl lui-même hein, va considérablement nuancer ses idées. Il bataille beaucoup justement dans cette comparaison perception-imagination parce qu'il est bien aussi forcé de voir, et c'est en cela qu'il est bon phénoménologue, il est bien forcé de voir que la distinction radicale perception-imagination ne fonctionne pas si bien que ça. Et donc, il est un peu, il est un petit peu, comment dire, déchiré entre cette nécessité de maintenir une opposition entre les deux et, disons, un travail de phénoménologue qui consiste à, au contraire, montrer à quel point, dans bien des cas, il y a une sorte de transition continue de l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui lui pose aussi problème, mais qui va avoir l'honnêteté de décrire dans beaucoup de nombreux beaux textes de description phénoménologique. Justement, une des affirmations que Husserl met en avant est qu'on peut percevoir et imaginer un même objet. Donc déjà, il y a un point commun, ce n'est pas suffisant, mais il y a déjà ici quelque chose qui le provoque un petit peu. Husserl avance donc d'abord une élucidation phénoménologique axée sur le concept d'acte, d'appréhension. Il s'oppose en cela aux psychologistes qui confondent objet visé et contenu sensible. Donc, du point de vue des psychologistes, c'est le contenu sensible qui porte à lui seul la différence entre perception et image. C'est pas le même contenu. Hein. C'est alors de deux choses l'une. Soit on établit une différence de nature entre, alors ce sont des termes techniques, je vais expliquer, sensation et fantasmata. Alors, qu'est-ce que c'est que sensation et fantasmata ? Sensation, c'est la matière de la perception. Bon, je ne sais pas, le rouge de ce fauteuil. Et fantasmata, c'est la matière sensible de mon imagination, de mes imaginations. Donc, par exemple, le rouge du dragon. On pourrait dire c'est deux rouges. Bon, la question dont je parle là maintenant est-ce qu'ils sont homogènes ou est-ce qu'ils sont hétérogènes ? Donc, du point de vue des psychologistes, ils sont hétérogènes. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même rouge. Enfin, ici, le terme rouge est utilisé de façon un peu trompeuse parce que ça donne l'impression que c'est qu'ils sont homogènes, mais en réalité, ils ne le sont pas. Et c'est comme ça qu'ils justifient la différence entre perception et imagination. Donc, si on adopte cette différence de nature entre sensation et fantasmata, alors fantaisie et perception sont hétérogènes par leur matière même, mais alors on se rend incapable de comprendre qu'un même objet puisse être perçu et imaginé. Donc, ça ne fonctionne pas. Ou alors, On considère que les fantasmata sont des sensations rémanentes. On trouve aussi parfois cette version chez les psychologistes. Donc là, ils sont homogènes, sensations et fantasmata. Parfois, donc, des sensations affaiblies. On trouve ça aussi beaucoup dans l'empirisme. Ce qui rétablit une continuité entre perception et imagination. Mais comme on en est réduit à tout miser sur la différence de contenu, alors cette fois-ci, on a beaucoup trop d'homogénéité. Et on se retrouve avec le problème que je signalais au début, c'est-à-dire finalement, perception et imagination, c'est la même chose. C'est la même nature, et donc on a perdu le réel. Parce que le réel perçu, au fond, c'est un peu la même chose que le réel imaginé. Donc tels sont les deux premiers arguments avancés par Husserl pour justifier l'idée qu'il faut impérativement penser l'imagination en termes d'acte intentionnel, de caractère d'acte. Donc ici, Husserl introduit, en plus du contenu, donc des sensations ou des fantasmata, l'intervention, disons, interprétante du sujet. Il n'y a d'image, dit-il, que pour une certaine visée, un certain mode de l'appréhension. Donc j'ai un même contenu, mais je l'appréhende différemment. Et donc il y a image, ou fantaisie d'ailleurs, hein, si il y a ce qu'il appelle « Verbildlichung », c'est-à-dire une mise en image. La fantasia, dit-il, est un acte de se présentifier, c'est « Vergegenwärtigen », intérieurement. Donc présentifier, on voit bien ici l'activité, hein, il y a une sorte de transformation, un faire gegenwärtigen, intérieurement. Et dans le paragraphe 22 de la sixième recherche logique, Husserl définit la représentation, ce qu'il appelle représentation de fantasia, donc ce qu'on appelle finalement les imaginations mentales, hein, ou présentification, comme appréhension analogisante de contenu illéthique présent, donc de contenu illéthique comme les sensations en fait. Hein. Donc au lieu d'être saisis comme porteurs de l'être en personne de la chose même, ils sont saisis comme ressemblant simplement à l'objet. Donc en fait, ici c'est vraiment une question d'appréhension. Je peux me comporter par rapport à un donné sensible, un contenu sensible de deux façons différentes et c'est finalement quelque chose qui me revient à moi en tant que sujet intentionnel et source des intentions et donc des actes d'interprétation. Alors c'est peut-être, c'est en fait encore plus compréhensible à propos de la Bildbewusstsein. Alors Bildbewusstsein, donc conscience d'image, toujours des termes techniques. En fait, fantasia, c'est ce qu'on appelle l'image mentale, en fait. Hein. Donc fantaisie, c'est généralement d'ailleurs le terme qui est utilisé, que ce soit en anglais ou en allemand, plutôt pour tout ce qui est image mentale. Bild, c'est vraiment l'image qu'on appellerait l'image physique, donc un tableau, une photographie. Hein. Et donc là, Husserl a la même approche. Il distingue l'image physique de ce qu'il appelle l'objet-image. Et il définit l'objet-image comme, je cite, « image spirituelle ». Alors je vous donne un exemple. L'image physique, c'est la chose présente ici et maintenant. La photographie, un morceau de carton par exemple, et quelques surfaces noires et blanches, grises ou colorées par exemple. Si vous avez une peinture, un tableau, c'est la toile, les aplats de couleurs, etc. Ça, c'est l'image physique. L'objet-image, c'est vraiment un concept qui est introduit par Husserl et une distinction qui est intéressante, parce que Husserl le décrit de la façon suivante. L'objet-image, quant à lui, est, par exemple, pour la photographie, le petit personnage en noir et blanc qui apparaît dans l'image et me renvoie à mon ami Pierre. Donc, il le décrit aussi parfois comme un petit fantôme. Et effectivement, il dit bien l'objet-image, j'insiste sur petit, parce qu'effectivement, c'est la taille telle qu'il apparaît, donc c'est pour ça que c'est un petit fantôme, noir et blanc. Et évidemment, mon ami Pierre, c'est ce qu'il appelle le sujet, image. Bah, mon ami Pierre, c'est mon ami Pierre tel qu'il est, je ne sais pas, peut-être à l'autre bout du monde, en taille réelle, pas en noir et blanc, etc. Donc on a trois entités ici, hein, l'image physique, l'objet-image et le sujet-image. Et pourquoi c'est important pour Husserl d'introduire l'objet-image ? Parce que là, effectivement, on introduit quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'introduis moi par rapport à l'objet physique. L'objet physique, il est ce qu'il est, indépendamment de moi, dans une certaine mesure. Par contre, le moment où la photographie devient représentation de mon ami Pierre, c'est quelque chose qui advient parce que j'ai un acte d'interprétation, selon Husserl. Hein. C'est aussi quelque chose qui va nuancer ensuite. Donc là, le concept d'objet-image a d'abord pour fonction de souligner le caractère d'image n'est pas une propriété qui serait déjà gravée, inscrite en soi dans les choses, mais un caractère constitué par un certain mode d'appréhension. Une simple chose physique ne peut en soi viser ou figurer autre chose. Et ce n'est pas parce qu'un objet ressemble à un autre qu'il est saisi comme son image. Et là, dans le « comme », vous avez l'acte d'appréhension, en fait. C'est le moment, c'est ce que j'introduis, moi, en tant que sujet. Un jumeau, dit Husserl, n'est pas saisi normalement comme l'image de son jumeau. Il n'est pas l'image de son jumeau, mais je peux l'interpréter comme image de son jumeau. Husserl insiste, l'image physique et l'objet image ne sont pas absolument situés, ne sont absolument pas situés dans le même ordre de réalité. L'objet image est ce qui flotte dans l'esprit. Il est, je cite, l'image propre de l'imagination. L'image physique et matérielle est présente en chair et en os, tandis que l'objet image, je cite, n'existe pas véritablement. Et il est même défini parfois comme un néant par Husserl. Tout ça est très intéressant et assez problématique aussi. Ainsi, Husserl aboutit à une conception phénoménologique de l'imagination comme acte. Cette solution, en fait, vaut pour sa clarté, mais pas forcément pour sa justesse phénoménologique. Husserl est en quelque sorte rattrapé par la thèse audacieuse qui constituait son point de départ phénoménologique, c'est-à-dire l'idée que l'imagination est toujours une intuition. Alors qu'est-ce que ça signifie ? L'originalité fondamentale de la pensée husserlienne de l'imagination, et en fait on retrouve cette idée chez Merleau-Ponty, tient en effet, me semble-t-il, d'abord dans la thèse selon laquelle, je viens de le dire, l'imagination est une intuition. C'est une thèse qui est clairement avancée dans les recherches logiques, et puis elle est reprise de façon constante dans les œuvres suivantes. Et c'est très audacieux, pourquoi ? Parce que imaginer, selon Husserl, ça n'est pas essentiellement viser un objet inexistant ou absent, ni seulement faire comme s'il était là, c'est vivre, et c'est ça ce que signifie intuition, hein, c'est vivre une expérience de quasi-présence. Et là, je disais que le terme quasi-présence est un peu ambigu, parce que on peut interpréter quasi-présence de beaucoup de façons. On pourrait souligner le quasi, c'est-à-dire un comme si. Hein. En fait, c'est pas vraiment l'expérience. Mais Husserl ne l'entend pas comme ça, et très tôt. Hein. Il y a aussi dans quasi-présence, d'abord, il y a présence. Et quasi, ça n'est pas une copie illusoire de présence, c'est une autre forme de présence. Et donc, on se retrouve ici avec deux formes de présence. Et non pas la copie, l'original, la copie. Perception, donation de l'objet, imagination, tentative un peu artificielle de ramener l'objet qui n'est pas là et de faire comme s'il était là. Ce qui est complètement artificiel et donc voué à l'échec. Ça, c'est une définition assez classique, mais ce n'est pas ce que dit Husserl. Husserl dit qu'il y a véritablement une certaine manière de vivre une expérience, alors qui n'a pas les mêmes modalités que l'expérience de perception, mais qui a aussi des modalités propres, avec des nouvelles formes de présence, qu'il appelle quasi-présence, et qui atteint justement des formes culminantes lorsque, par exemple, j'éprouve malgré moi que le personnage dans le portrait me regarde. Et c'est aussi quelque chose que Husserl déjà souligne. On va le trouver beaucoup chez Merleau-Ponty, mais c'est déjà chez Husserl. Il faudrait même parler d'hyper-présence dans certains cas. Il y a une capacité, dans certains tableaux, par exemple, de donner une sorte de surprésence aux choses. Alors, je ne peux donc pas simplement porter l'entière responsabilité de cette expérience. Sinon, ce n'est pas une expérience. Hein. Sinon, à ce moment-là, il n'y a pas de remplissement de la visée. Or, il y a un remplissement de la visée. Parce que dans sa qualité même, l'imagination ou la fantaisie hein, sont expériences d'un dédoublement du présent. Et pas seulement d'une tentative de production de perception contre ça, il est actuel. C'est-à-dire une sorte de tentative de transformation de la photo, comme si la photo était en elle-même neutre et que c'est absolument moi qui ai apporté toute la dimension d'image. Il y a quand même quelque chose d'un peu forcé dans cette description. Évidemment que je suis portée par la photographie. Et donc il y a ici une dimension de présence, mais aussi une dimension d'incitation, de sollicitation qui ne vient pas seulement de moi. Donc admettons que je cherche dans un acte de volonté pure à rendre présent ce qui ne l'est pas. La résistance obstinée de la présence, en l'occurrence, qui ne me donne pas ce que je veux, explique la dimension d'absence et de retard de l'imagination, mais pas la dimension de quasi-présence, pas l'expérience. Il faut que quelque chose dans ce que Husserl appelle le flux hylétique, à la pâte de l'expérience, la matière de l'expérience, se prête à l'ubiquité. Il faut que l'appréhension d'analogie, c'est comme si l'ami avec qui je poursuis une discussion houleuse était ici, trouve un support dans ce qui est en effet ici et maintenant. Et beaucoup le corps, hein, notamment les émotions, le corps, etc. D'où chez Husserl un approfondissement de la description des vécus de fantasia et de conscience d'image, guidé par le souci de reconnaître, pour commencer, leur étrangeté. Husserl, par exemple, dit « Mon poing se resserre quand je me dispute avec un ami absent. Je me retrouve dissocié, à la fois ici, vivant des perceptions et dans le monde imaginaire, vivant également des perceptions. Hein, c'est-à-dire que ça, il y a vraiment cette idée de dissociation. Il y a deux sujets. Il y a le sujet, encore une fois, assis dans son fauteuil, et le sujet qui est dans le monde, de Merlin l'Enchanteur, par exemple, et qui perçoit là-bas. Ici, j'imagine, mais mon double dans le monde de Merlin l'Enchanteur, lui, perçoit. Donc là, on voit que l'image commence à se compliquer. Donc je me retrouve dissociée, hein, c'est une spaltung, hein, dit Husserl. Et donc effectivement, mon moi de Fantasia vit sa propre vie, hein, dans les différents mondes, puisqu'il y en a plusieurs, évidemment, imaginaires. Ce n'est pas une reproduction. Husserl concède qu'il n'avait pas vu que, là il change d'avis, hein, dans la Fantasia, par exemple, d'une couleur, en fait, rien n'est donné d'un présent, d'un vécu couleur qui représenterait alors la couleur effectivement réelle. Et là, on accomplit un pas nouveau. Hein. Il n'y a même plus de représentation, c'est simplement une autre expérience. Même la conscience d'image cesse d'être comprise via le paradigme de la présence par procuration. La chose image, l'analogone présent, par exemple le corps de l'acteur, les couleurs et les traits sur la toile, se prêtent à mon appréhension imaginante et se dédoublent. L'avancée la plus révolutionnaire est, à mon sens, accomplie dans le texte numéro 16 des Husserliana 23. Et je cite ici, hein, « Du point de vue du procédé, du rendu théâtral visé, de la composition, nous disons, certaines choses s'avèrent propres à provoquer une double appréhension perceptive. » C'est « doppelte perceptive Auffassung ». Donc, on a cette fois-ci l'utilisation du terme de perception pour décrire la fantaisie. Alors, c'est pas Wahrnehmung, mais c'est perception. Il y a quand même quelques petites nuances, mais reste ici qu'on est très très proche d'une homogénéité. La présence actuelle peut brusquement se dédoubler. Donc Hamlet prend vie sur scène et nous l'imaginons non pas en utilisant le spectacle comme support, mais entraîné par le jeu de l'acteur. Nous voyons et nous entendons Hamlet à même le corps, les paroles, les gestes de cet acteur. Hamlet n'est pas ailleurs, il n'est pas dans notre imagination, il n'est pas nulle part, il n'est pas un néant. Ce sont toutes les personnes et les objets sur scène qui se métamorphosent. Et là, on est vraiment plus proche d'une métamorphose que, encore une fois, d'une représentation ou d'une imagination au sens classique. La seule différence avec des expériences purement perceptives est, affirme Husserl, que nous ne posons pas de croyance en leur existence, ni non plus en leur inexistence d'ailleurs. En fait, nous nous abstenons. Il y a une sorte de flottement ici, le terme de flottement va être important. L'expérience est neutralisée, non pas d'ailleurs, encore une fois, en vertu d'une décision arbitraire, mais suivant une motivation portée par ce que Husserl appelle une anomalie du spectacle. Dans le cas des photographies ou des tableaux, les objets et personnages présentés, le plus souvent minuscules et de toute façon en deux dimensions, sont aisément perceptibles comme anomaux. Dans le cas du théâtre, la cérémonie du spectacle, par exemple, fait que je ne suis pas supposée monter sur scène pour utiliser les objets qui s'y trouvent. La table n'est plus une table servant à quelque chose, etc. Donc il y a aussi quelque chose d'anomal dans l'expérience. Et c'est ça qui finalement fait la chimie de la transformation, de la métamorphose en imagination. Donc je suis ici encore une fois portée par l'expérience. Ce n'est pas seulement quelque chose de purement, qui était finalement une description très intellectualiste, hein, de l'imagination, qui consisterait à dire, en tant que sujet roi, je m'empare des données qui me sont offertes à ce moment-là et je transforme ou pas en imagination. Donc là, on est quelque chose qui est effectivement beaucoup plus organique, au fond. Hein. Donc le dépassement du schéma Auffassung Inhalt, c'est-à-dire donc appréhension contenu, implique ainsi la découverte d'une matière sensible capable de donner à imaginer. Il implique également le dévoilement d'étranges actes d'imagination avant mes actes d'imagination. La nature de cette imagination qui me précède reste obscure. C'est-à-dire là, j'ai dit que finalement, encore une fois, le spectacle me sollicitait, me donne à imaginer. Je vais commencer à m'acheminer petit à petit vers Merleau-Ponty. On pourrait dire que ça imagine avant moi et que je reprends cette imagination, que j'imagine encore une fois portée par une nature qui imagine et qui me donne à imaginer. Donc la nature de cette imagination qui me précède reste obscure. On peut dire qu'elle est l'œuvre, alors ça c'est effectivement, c'est là qu'il peut y avoir des discussions, on peut dire qu'elle est l'œuvre de l'ego transcendantal, parce que est-ce que je suis vraiment l'ego transcendantal mais en fait, l'étrangeté à soi de cet ego fait ressurgir le problème initial sous une forme nouvelle. Clairement, la phénoménologie husserlienne nous a conduit d'une théorie des actes du sujet à la définition d'une ubiquité minant la présence sensible même. Et en fait, c'est déjà révolutionnaire. Alors, pour désigner ce mode de présence, j'ai élaboré dans mes ouvrages consacrés à la question de l'imagination, le concept de flottement, qui vient avant tout de Schwebung en allemand, parce que c'est un terme qui est utilisé de manière récurrente par Husserl dans les textes du recueil 23. Il était intéressant de jouer sur les connotations du verbe allemand « vorschweben » et sur celles suggérées par le terme français de flottement. également communément utilisé pour parler de l'imagination et de l'imaginaire. Alors, mon parti pris a été de regrouper des indications éparses, parce que c'est pas vraiment un concept dans Husserl-Lana 23, hein, le flottement. Donc, des indications éparses dans Husserl-Lana 23, tout en écartant toute formulation centrée sur l'activité du sujet. Mais en fait, la formule allemande, es schwebt mir vor, est déjà, en fait, impersonnelle, hein. Ça signifie ça flotte devant moi, ou pour moi. Ça se présente, ça se manifeste à moi en flottant. C'est vraiment une traduction très maladroite, hein, mais c'est très difficile à traduire. Et donc, déjà, et ça signifie aussi, j'imagine, en fait, hein, je me le représente, j'imagine. Donc, je le rêve, je l'imagine. Et Husserl dit parfois qu'imaginer, c'est se projeter un objet en image interne, le faire flotter. Donc là, on a de nouveau une sorte de formulation de l'imagination qui est très centrée sur le sujet. Mais es schwebt mir vor suggère déjà un mode de présence. Hein, c'est ça, flotte. Le flottement devient ainsi un mode de donation et pourra être également compris comme un mode d'être, un mode flottant. Justement parce que l'imagination est aussi rendue possible par l'objet imaginé et son être même. Et là, ça devient un concept ontologique. Husserl donne de nombreuses indications permettant d'étoffer ce concept. Le mode d'être original dont nous faisons l'expérience avec les vécus d'imagination se caractérise par la formation d'un monde parallèle, en fait de plusieurs mondes parallèles, hein, ne pouvant être reliés de manière continue avec le monde réel. Schweben, ça veut dire flotter, enfin c'est être en l'air, être en suspens. Et Husserl joue beaucoup là-dessus en disant, par exemple, il n'y a pas de chemin continu qui mène d'ici, de mon ici et maintenant, à l'ici et maintenant de la licorne, par exemple. Donc il y a effectivement une sorte de saut. Ça reste un saut entre une sorte de dédoublement du monde sensible, parce que la licorne, c'est aussi quelque chose dans l'imagination qui se donne à moi de façon sensible. C'est pour ça que c'est une perception là-bas. Donc du coup, il aime bien le concept de flottement aussi, dans ce sens qu'il y a une sorte d'expérience syncopée, pourrait-on dire, et surgissant néanmoins en superposition et en compétition avec le monde présent. Donc ce n'est pas un abandon de ce monde, mais plutôt, plus exactement, le dévoilement au sein de ce monde d'une dimension nouvelle d'ubiquité des choses, de l'espace et du temps, et du moi lui aussi contaminé par le flottement. Donc il y a prolifération de mondes imaginaires, mais de mondes imaginaires dans ce monde, en fait. Donc se dévoile également une forme d'écart à soi des choses pouvant être perçues et imaginées. Tandis qu'une relative marge de manœuvre, certes, est offerte à l'activité d'appréhension, je peux me forcer, avec un certain succès, à ne voir que l'acteur et pas Hamlet, ou à saisir un paysage actuel comme l'œuvre d'un peintre. C'est toujours aussi possible. Alors, résumons. Alors que la présence perceptive prétend me donner des objets clairs, on parlait tout à l'heure de l'attitude naturelle, il y a effectivement quelque chose de dogmatique dans la perception, elle est très fortement imprégnée de cette attitude naturelle, donc il y a une sorte presque de littéralité un peu automatique dans la perception, donc sans me poser beaucoup de questions, j'ai l'impression d'être face à des objets clairs en soi. Alors c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a aussi des zones un peu ambiguës entre perception et imagination, Merleau-Ponty est toujours très friand de ce genre d'expérience. Et donc la perception est essentiellement liée à une croyance naturaliste. Au contraire, la présence flottante des images se livre essentiellement comme irruption d'un jeu sur les mondes parallèles ou encore comme découverte d'un monde ontologiquement multidimensionnel. Mais au fond, on peut, quand je commence à regarder le paysage comme s'il était l'œuvre d'un peintre, c'est aussi une manière de dire que finalement l'art est déjà aussi, dans une certaine mesure, virtuellement à l'œuvre dans la nature. Donc c'est pas seulement quelque chose de purement arbitraire. Mais en fait, il faut encore accomplir un pas supplémentaire. En fait, ce flottement est une dimension ontologique de tout être. Et donc je passe à un deuxième point ici, qui est l'imaginaire du réel. Donc là, je suis partie de la distinction finalement assez classique, percevoir, imaginer. Mais si on suit ce trajet, on arrive finalement à des, je l'ai déjà un peu ébauché, à des thèses ontologiques, et en fait même à une thèse ontologique qui consiste à trouver une dimension imaginaire dans le réel même. Alors il me semble-t-il extrêmement frappant de constater que chez Husserl, le champ lexical de l'imaginaire, donc fantôme par exemple, Abschattungen, je vais y revenir, Schwebung, s'invite régulièrement dans les textes où les actes imaginaires ne sont plus l'objet d'études spécifiquement visées, mais où il est question de perception, du monde de la vie, ou de la présence d'autrui par exemple. Alors j'ai soutenu, c'est une certaine lecture de Husserl, mais je pense qu'il y a vraiment matière à défendre cette thèse vraiment dans les textes de Husserl même. J'ai soutenu qu'il est légitime de parler d'une imagination anonyme à l'œuvre au niveau ontologique. Alors j'expliquerai pourquoi. En choisissant de parler d'imagination anonyme, ou d'actes fantômes, par exemple, encore au niveau ontologique, je maintiens une référence qui ne peut que sembler problématique à une faculté mentale d'imagination. Là, on est toujours... Il y a effectivement dans cette référence à l'imagination toujours quelque chose d'un peu problématique. Alors, les choses flottantes du monde de la vie. L'idée est clairement formulée dans la crisis. Les choses du monde, je cite ici Husserl, les choses du monde ambiant intuitif se tiennent d'une façon générale et pour toutes leurs propriétés dans une certaine oscillation autour du type pur. Leur identité avec elle-même, leur être égal à soi-même et leur durée temporaire dans une égalité ne sont que des à peu près, de même que leur être égal à d'autres choses. Donc le monde de la vie, c'est le monde de l'à peu près. C'est le monde du flottement, en fait. Dans la vie de l'expérience pré-scientifique, je cite encore Husserl, donc dans la vie de l'expérience pré-scientifique, ce que nous nous approprions en tant que connaissance du même reste inévitablement quelque chose qui flotte dans l'à peu près. Ein im ungefähren in Schwebe bleibendes. Donc Schwebe. Et en fait, ça revient, ça n'est qu'un exemple, mais ça revient souvent. Et y a pas de, Husserl ne fait pas le lien avec l'imagination, en fait, probablement, on pourra en discuter, parce que évidemment, on est sur un terrain glissant. Si la perception, c'est du flottement, la phénoménologie risque bien de tomber dans le pur relativisme. Donc, effectivement, il y a un problème. Pareil pour le concept d'Abschattung, d'esquisse. C'est alors les esquisses, peut-être que je devrais définir. Donc, quand je perçois, les objets que je perçois, dit Husserl, me sont en fait avant tout donnés comme une ligne de, presque de ligne musicale, d'apparence, de facette, de perspective. Donc, en fonction de la luminosité, cette table n'a pas exactement la même apparence. Et donc, en fait, si je me déplace un petit peu, c'est encore une autre facette. Donc, en fait, ce qu'est la perception de la chose, c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique que simplement une sorte de cliché immédiat. C'est beaucoup plus quelque chose dans la durée. Qui est donc cette sorte de multiples perspectives ou esquisse, Abschattungen en allemand. Donc si la phénoménalité appartient à l'être, c'est quand même un des thèses fondamentales de Husserl, ce qui conduit ce à quoi conduit en effet le rejet de la distinction kantienne entre phénomène et chose en soi, ce qui est aussi fondamental en phénoménologie, eh bien, il me semble nécessaire d'intégrer le flux d'esquisses à l'être même des choses. Et là aussi, ça devient un peu problématique. Les textes d'IDN1 ne soutiennent pas tous cette thèse. Ça, c'est effectivement assez classique. Husserl, toujours pour la même raison, dit bien, certes, la définition de la perception, c'est une ligne d'esquisses, mais ça ne veut pas dire que j'ai une image de la chose, parce que sinon, effectivement, de nouveau, on se retrouve avec une thèse qui consisterait à réduire la perception à une sorte de pure représentation mentale. Donc, il dit bien, la chose, ça n'est pas les esquisses. Ça n'est pas la même chose. Il importe, en effet, de distinguer la chose de ses esquisses. La chose ne coïncide avec aucune des esquisses en particulier. On pourrait dire aucune de ses apparences. Elle est située dans l'espace objectif et saisie comme ne changeant pas. Donc, autant les apparences de cette table sont multiples et changeantes, autant, dit Husserl, quand je perçois la table. Et la table, je la distingue de son apparence. Donc là aussi, c'est vraiment une distinction qui consiste à essayer de rendre justice à ce que l'on vit. Les esquisses, elles, sont des vécus et changent sans cesse. Soit. Mais ce sont les esquisses qui font signe les unes vers les autres et vers l'objectivation d'une chose apparaissant comme en soi à l'attitude naturelle. C'est-à-dire que malgré tout, Husserl va bien être obligé de réfléchir sur le lien entre les esquisses et la perception, et donc la chose même. Donc la distinction de départ va devoir être travaillée. Husserl lui-même utilise des formules tout à fait frappantes. C'est bien, dit-il, la chose qui s'esquisse. Il y a l'usage d'une formule qui est une formule réflexive, « das Ding sich ». Abschattet, s'esquisse. Et ça revient souvent aussi. Autre citation, toute réalité se fait connaître peu à peu dans la perception, se fait connaître peu à peu dans la perception qui la prend pour thème, tandis qu'elle se figure continuellement, c'est selbst da continuerlich darstellt, comme étant là dans son ipséité, se déployant dans ses notes, ses moments quidditifs singuliers. Ceux-ci, de leur côté, sont également présents à la conscience comme se figurant en eux-mêmes. C'est vraiment la perception, c'est le monde qui se peint devant mes yeux. On pourrait le dire comme ça. Se figurant en eux-mêmes, mais comme ayant précisément le sens de moments dans lesquels la réalité en question s'indique en ce qu'elle est. La dimension de distance et d'inadéquation sont précisément l'élément constitutif essentiel d'une présence authentique. C'est là qu'il y a quand même des liens avec l'imagination. Donc la chose qui se donne dans, la, dans sa transcendance, c'est aussi une chose qui doit se donner par esquisse. Parce que si elle était donnée immédiatement, sans aucune, sans aucun décours, c'est comme ça que c'est souvent traduit en français, décours infini d'esquisse, alors ça serait effectivement une idée qui est dans mon esprit. Mais le fait que la ligne mélodique des esquisses soit ouverte, c'est-à-dire qu'il peut toujours y avoir de nouvelles apparences, je peux toujours être surprise par la manière dont une chose va se dévoiler à moi, un changement de lumière, il y a toujours des choses surprenantes ici, ça c'est de la transcendance. Et effectivement, c'est de l'art dans ce sens aussi où il y a effectivement une capacité à me surprendre. Donc en outre, c'est également une sorte de variation eidétique naturelle qui se produit dans le flux des esquisses et qui rend possible et institue la variation eidétique plus active qui est au cœur de la phénoménologie de Husserl, cette capacité à universaliser. Oui, nous accédons à des essences en mettant en œuvre la variation. Alors la variation, je n'ai pas défini la variation eidétique. En phénoménologie, c'est essayer de trouver une essence en faisant varier ce qu'est une chose. Par exemple, alors pour le dire très simplement, si on donne cet exemple, on verra que ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué. C'est ce qu'on fait toujours, en fait, quand on cherche une essence. Sans toit, est-ce que c'est encore une maison? Sans fenêtre, est-ce que c'est encore une maison? Etc. Sans porte, est-ce que c'est encore une maison? Etc. Donc là, on fait varier, en fait, l'expérience et on regarde qu'est-ce qui reste. Qu'est-ce qui résiste? Mais cette variation comme méthode imaginante audacieuse, humaine et spirituelle, là vraiment il y a un travail, on voit que c'est un travail intellectuel, éminemment active, subversive, arbitraire aussi, où Husserl insiste, pour faire une bonne variation eidétique, il faut être très audacieux, il ne faut pas hésiter à inventer des variations complètement improbables pour voir ce qui résiste, pour voir ce que j'arrive pas à faire varier. Ça repose aussi sur une capacité à nier ce qui est donné. Là on est vraiment sur des caractéristiques très très classique quand on cherche à définir ce qu'est l'être humain, cette capacité à nier le réel, cette capacité à être extrêmement active dans l'interprétation du monde. Alors tout ça, effectivement, c'est quelque chose de très caractéristique de la variation eidétique, mais en fait, on pourrait dire que ça commence déjà dans les Abschattungen, c'est-à-dire que le monde varie, le monde se fait variation. Et je suis en fait très fortement inspirée, si je suis capable de performer, d'accomplir une variation eidétique, c'est aussi parce que ça varie déjà beaucoup dans la réalité. Donc, je reviens sur cette citation classique. La fiction, disait Husserl, constitue l'élément vital de la phénoménologie. Donc oui, mais au sens où, je le redis, ça imagine avant moi. Et l'être même est flottant. Donc l'essence prendra la forme d'une essence morphologique. Alors comment définir cette dimension imaginaire du réel? Eh bien, c'est reconnaître l'existence dans les choses mêmes, comme leur être même, de ce que j'ai appelé une ligne flexueuse, c'est aussi un terme qu'on trouve, disons, dans la continuité de Bergson, un axe générateur virtuel et ouvert d'Abschattungen, de variation sur un thème musical. Ce modèle ontologique du flux d'esquisse est aussi celui de l'existence. Donc là, il y a bien un lien aussi avec l'existentialisme. Il implique un processus cohérent, mais ouvert, et un mouvement constant de saut vers le futur, sans garantie. Encore une fois, je ne sais pas quelles vont être les prochaines esquisses. Je les devine, parce qu'il y a effectivement une certaine cohérence dans la manière dont la table se présente à moi. Donc, plus ou moins, je peux prévoir quelles vont être les prochaines apparences. Mais ça arrive que je sois surprise. Donc, il y a aussi un saut vers le futur. Ça, c'est vraiment typique de l'existence, c'est être hors de soi, sans aucune garantie, encore une fois. Donc, les variations nouvelles sont à la fois prévisibles, elles ont un air de famille, je reviens à une expression que j'ai utilisée au début, mais elles ne sont pas parfaitement calculables, comme dans l'interprétation, d'ailleurs, d'une mélodie. C'est la même chose. C'est une métaphore qu'on retrouve très souvent chez Merleau-Ponty. C'est la structure fondamentale de ce qu'on appellera l'existence, se jeter hors de soi. La liberté, justement, là aussi, une dimension de liberté aussi, déjà dans le monde. Et elle appartient, je le répète, à l'être même des choses. Cette dimension imaginaire est aussi caractérisée par une forme d'autopoiesis, de création de soi, d'invention de soi. C'est en fait un terme qui est utilisé notamment pour décrire les êtres vivants et les processus organiques. Un être vivant est autopoétique en ce qu'il n'est pas le pur résultat de causalité extérieure, d'un ensemble de conditions environnementales. Il se définit par sa capacité à se construire, ça y est, on a de nouveau les réflexifs, tout ça, ce sont des choses qui sont liées, d'un ensemble de conditions environnementales, il se définit par sa capacité à se construire et mettre en forme son environnement selon des normes endogènes, des normes qui viennent de lui, qui émergent de la matière de son corps au fur et à mesure qu'elle s'assemble et s'organise. Alors, il faut ici noter encore l'usage du pronom réfléchi et de construction réflexive, qu'on a déjà noté à propos de la des Abschattungen et qui est effectivement assez caractéristique aussi de l'imagination. C'est aussi le lien fondamental entre le champ du vivant, le champ du soi et le champ du monde. Et tout ça, effectivement, permet, me semble-t-il, de mieux comprendre le concept de Lebenswelt. Je m'explique. Le soi trouve bien ses racines dans un processus endogène qui se développe sans se laisser seulement informer par une série anonyme de causalités en troisième personne. C'est ce qui fait que je peux dire « je », effectivement. La distinction intérieure-extérieure est en fait déjà naissante dans les organismes. Quand un organisme commence à écarter ce qui lui déplaît ou lui nuit, ou à rechercher ce qui le nourrit ou lui plaît, et le renforce quand il se rapporte à son environnement de manière sélective. Bon, on parlait de Uxküll pendant la pause. C'est très caractéristique ici des comportements animaux. Quand il se rapporte à son environnement de manière sélective, une distinction intérieure-extérieure commence à se dessiner. Pour lui, une série cohérente d'actes, de perceptions et d'affects orientés également où l'individu se définit et se circonscrit. Se définit, se circonscrit. C'est la clé même de l'émergence d'un soi cohérent qui se retrouve et se refait dans des matériaux divers selon une logique qui n'appartient qu'à lui, qui fait son style insaisissable, donc comme sujet de l'action et finalement sujet de la perception. Donc dire que la chose, j'ai fait une sorte de petit excursus, mais dire que la chose s'esquisse, c'est lui prêter cette même structure autopoétique ou structure subjective, qui est aussi la racine des idées et de la conscience. C'est, là, on est vraiment, je vais le dire de façon plus explicite, mais là, on est vraiment sur les racines d'une pensée écologique dans la phénoménologie. C'est un monde de la perception qui est un monde qui est déjà vivant et qui parle au vivant. Donc c'est aussi pourquoi le concept de Lebenswelt ne renvoie pas seulement au vécu de l'être humain, on parle de vie des choses. L'autopoésie, c'est aussi fondamentalement imaginative. Alors, je fais le lien cette fois-ci avec l'imagination, parce que d'abord, elle a le mode d'être essentiel du flottement, ouvert et inventif. Il y a quelque chose de flottant, en effet, dans les êtres vivants qui s'inventent de façon effectivement assez parfois imprévisible. Entre les matériaux du corps et de l'environnement et l'axe générateur, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas d'identité stricte, mais rapport d'émergence. Ainsi, un organisme, parfois, utilise des objets à des fins nouvelles ou des organes pour des fonctions qui n'étaient pas la leur dans un premier temps. C'est la plasticité, le phénomène de vicariance des fonctions, de polyvalence des organes. Et en fait, les Abschattungen procèdent de la même façon. La chose ne coïncide avec aucune Abschattung en particulier, ni même avec telle série fixe d'esquisses ou d'Abschattungen. Ainsi, elle apparaît parfois sous des visages nouveaux et surprenants. Alors, Merleau-Ponty... j'avais pas encore mentionné Merleau-Ponty ici, mais en fait, il était toujours en arrière-plan parce qu'il a beaucoup thématisé toutes ses idées. Alors, je fais le lien avec Merleau-Ponty maintenant. D'abord, dans un chapitre qui est crucial ici pour bien comprendre, en fait, le dernier Merleau-Ponty, qui est un chapitre déjà de la phénoménologie de la perception, qui est le chapitre consacré au sentir. Qui est un chapitre qui déjà anticipe la théorie de la chair du monde. Et Merleau-Ponty explique, en fait, que la chose est sujet ou co-sujet de la perception. Je co-perçois avec la chose. Je cite, c'est très classique, mais c'est un très beau texte. « Moi qui contemple le bleu du ciel, je ne suis pas en face de lui un sujet acosmique. Je ne le possède pas en pensée. Je ne déploie pas au-devant de lui, une idée du bleu qui m'en donnerait le secret. Je m'abandonne à lui. Je m'enfonce dans ce mystère. Il se pense en moi. Je suis le ciel même qui se rassemble, se recueille et se met à exister pour soi. Ma conscience est engorgée par ce bleu illimité, du ciel perçu ou senti, sous-tendu par mon regard qui le parcourt et l'habite, milieu d'une certaine vibration vitale que mon corps adopte. On peut dire qu'il existe pour soi, et non pas seulement en soi, pour soi, en ce sens qu'il n'est pas fait de partie extérieure, que chaque partie de l'ensemble est sensible à ce qui se passe dans toutes les autres, et les connaît dynamiquement, donc les parties du ciel. D'où l'idée dans les notes de travail du visible et l'invisible que les choses sont des, je cite, « presque compagnons ». On pourrait dire « quasi compagnons ». Alors, je cite ici, c'est dans le visible et l'invisible. « Avant autrui, les choses sont de tels non-être, écart. Il y a Einfühlung, donc empathie, et rapport latéral avec les choses non moins qu'avec autrui. » Certes, les choses ne sont pas des interlocuteurs. L'Einfühlung qui les donne comme muettes, Il y a quand même des différences. J'y reviendrai. Mais précisément, elles sont variantes de l'Einfühlung réussie. Comme les fous et les animaux, elles sont des presque compagnons. Elles sont prélevées sur ma substance, épines de ma chair. Fin de citation. Donc on a basculé ici du côté de Merleau-Ponty, mais j'ai aussi voulu suggérer que c'était bien en suivant des indications laissées par Husserl. Donc il est temps de faire une sorte de bilan conceptuel à propos de l'exposé que je suis en train de vous présenter. On pourrait en effet dire que je pense souvent par analogie. J'ai beaucoup sauté entre le monde des animaux, le monde de la perception, de l'imagination, etc., les choses. C'est précisément une difficulté à laquelle Merleau-Ponty a été beaucoup confronté. C'est notamment ce que la formule « les choses sont des presque compagnons » suggère encore. L'on voit bien que parler de co-sujet, d'imagination anonyme, de dire que le monde me parle, que le monde imagine, que ça imagine, c'est en quelque sorte aussi partir de concepts qui, classiquement, définissent la spécificité humaine, et c'est prétendre les étendre à tout l'être. N'est-ce pas le retour du vieux mythe de l'idylle, Merleau-Ponty a été aussi un petit peu, beaucoup critiqué pour ça, d'une nature pleine d'esprit qui nous aime, qui nous porte. Alors ce serait une nouvelle version de la critique de Tom Sparrow. Au nom d'un air de famille et de concepts parapluie, on gomme les différences, les conflits, tout angle d'attaque explicatif véritablement capable de faire la différence. Les corps fantastiques sont-ils trop tendres, pour reprendre une expression de Deleuze, si tout est imagination, eh bien rien ne l'est. Ou encore, le concept perd toute acuité. Donc ce serait une objection effectivement fondamentale. Alors les corps fantastiques, justement, pour essayer de réintroduire un peu de différence dans tout ça. Donc en fait, il est possible d'introduire une distinction entre diverses modalités. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'aura imaginaire des choses. Merleau-Ponty appelle cela également la texture imaginaire du réel. C'est dans l'œil et l'esprit. C'est cet être flottant des choses, des êtres vivants, des personnes. Elles sont un flux d'esquisses, flottant. C'est ce qu'elles sont. Hein. Cette aura n'est pas imaginaire au sens où il est imaginé par quelqu'un. Cette aura n'est pas imaginaire au sens où elle est imaginée par quelqu'un. Elle est l'être même des choses et des êtres. Alors on peut la distinguer conceptuellement de l'imagination comme principe plus actif, lequel peut prendre également diverses formes. Processus d'autopoïesis à même les Abschattungen, les morphologies et métabolismes, la vie imagine. L'axe générateur d'un flux d'esquisses imagine. Il est déjà un se projeté, il est déjà structure d'existence, hein, émergence d'un soi. Ça, imagine. Donc il y a déjà une petite nuance, me semble-t-il, entre la texture imaginaire des choses et ça imagine. On peut encore distinguer cette imagination anonyme d'une imagination dont s'empare un individu, sous une forme plus contrôlée. J'imagine. Alors consciente dans ces cas-là, mais un animal qui joue, par exemple, hein, eh bien c'est aussi un il imagine. L'imagination anonyme nous renvoie également à, alors je vais passer rapidement là-dessus, mais à l'art caché chez Kant, cet art caché qui prépare mon imagination. C'est un passage de la critique de la raison pure qui est cité et souligné par Husserl et Merleau-Ponty, je pense que c'est une des racines. Hein. Je cite ici, c'est un texte fameux, « Ce schématisme de notre entendement est un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine, dont nous arracherons toujours difficilement les vrais mécanismes à la nature pour les mettre à découvert devant nos yeux. » Alors Heidegger a aussi beaucoup commenté ce texte, hein. Mais en fait, je crois que c'est moins connu. Husserl et Merleau-Ponty s'en inspirent aussi énormément. Alors le schématisme, c'est en effet le nom donné à un accord entre sensibilité et entendement. C'est-à-dire le fait que finalement, les sensations, c'est pas un pur chaos, ça fait sens en fait. Hein. Et ça fait sens avant même l'application de concepts, où ça prépare les concepts en fait. Il y a déjà quelque chose qui se met harmonieusement, pas toujours harmonieusement, mais aussi harmonieusement en place, et ce qui évidemment est à son point culminant dans l'art ou dans la beauté. Donc les concepts sont des règles de jugement et l'imagination applique ces règles aux intuitions sensibles, mais le schématisme c'est un art, un savoir-faire, encore une fois, Kant admet, concède, c'est un moment assez vertigineux dans la critique de la raison pure, qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Ça vient de la nature, ça vient du fond de l'âme, et donc évidemment ça reste ouvert, hein. On ne peut pas dire qu'il approfondisse beaucoup cette piste, par contre on peut dire qu'on la trouve entièrement explorée chez Husserl et Merleau-Ponty. L'imaginaire ici, donc, quand on parle d'imaginaire, c'est aussi un concept important, mais ça signifie aussi qu'il y a une dimension impersonnelle, mais aussi finalement actif, donc l'imaginaire est aussi un peu à la jonction. Il n'est rien, en fait, sans une myriade d'imaginations. Chaque chose, chaque excéité, pour prendre un terme deleuzien, imagine. L'imaginaire serait ainsi la manifestation dans l'être sédimenté d'une chose, d'une aura témoignant de ses activités imaginantes, anonymes et impersonnelles. Alors, dans ce cadre, que sont les corps fantastiques? Pour revenir à ce concept que j'ai brièvement introduit au début, ce sont les corps réels, tout simplement des corps, hein, compris comme intégrant cette aura imaginaire et ses capacités d'imagination. Gardons en tête qu'il s'agit d'abord de rester tourné vers les choses mêmes, hein, vers les phénomènes, plutôt que de leur substituer une superstructure de concepts et d'essence claire, figée et mort. Ce sont donc bien des corps, pas d'abord des idées. On reste donc même au cœur du sensible, du flux sensible héraclitéen, comme dit Husserl, des corps concrets, précaires et corruptibles. Mais tout le processus de formation du sens, y compris des essences, hein, sans lesquelles non seulement on ne pense pas, mais aussi on n'imagine pas, commence au creux de ces corps mêmes. Ils sont donc fantastiques. Ils sont flottants et intègrent une vie imaginaire, une aura imaginaire créatrice, ouverte, dotée de sa propre personnalité. Ils imaginent déjà. Ils sont aussi déjà la formation d'un soi autopoétique, inventif, qui se développera sous des formes plus ou moins actives et conscientes. Ce concept de corps fantastique est en fait inspiré d'une note de travail de Merleau-Ponty. C'est en 1960, dans Le visible et l'invisible, et particulièrement énigmatique, je vous la lis. Il faut, écrit Merleau-Ponty, comprendre le rêve à partir du corps. Comme l'être au monde, sans corps, sans observation, ou plutôt avec un corps imaginaire sans poids. Comprendre l'imaginaire par l'imaginaire du corps. Et donc, non comme néantisation qui vaut pour observation, mais comme la vraie Stiftung, institution de l'être, dont l'observation et le corps articulé sont variantes spéciales. Je vais relire, hein, c'est dense. Donc, comprendre le rêve à partir du corps. Soit, comme l'être au monde sans corps. Donc là, on a l'être au monde, mais on n'a plus le corps. Sans observation, ou plutôt avec un corps imaginaire sans poids. Donc le corps revient, mais cette fois-ci c'est un corps imaginaire. Comprendre l'imaginaire par l'imaginaire du corps. Donc on a bien le corps, mais c'est d'abord l'imaginaire du corps. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Un corps imaginaire sans poids, l'imaginaire du corps. On comprend ici que dans un renversement remarquable, l'imaginaire précède le réel. Je relis la toute fin de cette citation. Comprendre l'imaginaire par l'imaginaire du corps. L'imaginaire comme la vraie Stiftung de l'être, donc institution de l'être, hein, origine on pourrait dire, dont l'observation et le corps articulé sont variantes spéciales. Corps articulé, donc mon corps réel, est une variante de mon corps imaginaire. Le corps imaginaire est premier. C'est évidemment assez surprenant, hein. Donc on comprend qu'effectivement il y a une sorte de renversement ici. Le corps imaginaire précède le réel, mais également le fonde. Stiftung, c'est fort quand même, hein, c'est vraiment l'institution. C'est la vraie Stiftung de l'être, dit Merleau-Ponty, de l'être, l'être avec un E majuscule. Donc on est vraiment là au cœur de l'ontologie et c'est le corps imaginaire qui est au cœur de l'ontologie. Alors je pense que les idées que j'ai développées précédemment permettent en fait de mieux comprendre ce passage et même de lui donner une portée peut-être encore plus radicale, déjà très radicale, de celle esquissée par Merleau-Ponty. L'imaginaire est cet axe générateur de toute individuation. Mon corps est imaginaire avant d'être ce corps-ci, ce corps articulé, dit Merleau-Ponty, ce corps réel, avec cet ensemble actuel de propriétés et de composants matériels inséparables d'un emplacement circonscrit et déterminé dans le temps et l'espace. Mon corps peut beaucoup plus que cela. Il est bien plus que cela. Il n'est pas imaginaire au sens où il est imaginé par quelqu'un, mais au sens où il est autopoiesis. Mais également, en fait, cela reste mon corps fini. Donc il n'est pas imaginaire, il n'est pas ses possibilités et ses variantes, cet axe générateur ne sont pas des idées au ciel platonicien. Et donc c'est ce que j'appelle un corps fantastique. Et en fait, j'applique ce concept, pardon, à tout corps. Et ce faisant, j'extrapole à partir de Merleau-Ponty et j'espère également renforcer ce qui me semble être esquissé par lui, mais qui est également parfois contredit par certains choix plus malheureux de formules, disons, anthropocentriques chez Merleau-Ponty. J'y viens. Je pense que ça pourrait être éclairant. C'est toute cette critique autour du concept de chair du monde. En fait, il y a bien une objection ici qui me semble importante à traiter. La phénoménologie ainsi comprise pense-t-elle assez le monde dans sa différence et le réel dans son inhumanité? Encore récemment, Renaud Barbaras critiquait le concept de chair du monde ainsi. Lorsque Merleau-Ponty affirme qu'il faut parler de chair du monde, il procède clairement par métaphore, par transposition. Il part de ma chair, de la chair humaine comme modèle. Alors est-ce que c'est un problème? On pourrait dire, non, c'est tout l'enjeu, hein. On peut en effet souligner que tout l'enjeu, c'est précisément de dire que le monde est chair, tout comme moi. Donc que la forme de la transposition ne devrait pas être gênante. Mais on peut aussi convenir, et en cela l'analyse de Renaud Barbaras me semble bien montrer où est le problème, on peut aussi convenir que l'argument de Merleau-Ponty serait inepte s'il admettait une pure et simple identité entre ma chair et la chair du monde. Quelle serait alors la pertinence d'affirmer une parenté? Où serait l'originalité et le pouvoir de dévoilement du concept de chair du monde. Donc il y a bien transposition. Mais justement, s'il y a une différence entre ma chair et la chair du monde, comment prétendre la dépasser? Donc il y a bien métaphore. Et s'il y a métaphore, est-ce que c'est vraiment conceptuellement solide? Renaud Barbaraz dit ainsi que le lapin que Merleau-Ponty sort de son chapeau n'est pas celui qui a disparu dans le foulard. J'explique, on avait au départ, disons dans le foulard, ma chair, avec ses capacités de réflexivité, d'expressivité, d'abstraction, de passage au virtuel d'une part, les corps des choses comme cœur-peur, hein, d'autre part, et ça c'est la deuxième dimension qui est effectivement qu'on met dans le foulard, dit Renaud Barbaraz. Et ce qui sort, c'est la chair du monde. Finalement, tout est homogène. Les choses pensées par analogie avec ma chair. Mais en fait, seulement, et c'est là que la métaphore est un échec chez Merleau-Ponty, en tout cas, certains textes donnent cette impression, seulement des presque compagnons. Et on voit bien que Merleau-Ponty bataille un peu ici. Hein. Le tour de passe-passe est manqué, pourrait-on dire. La métaphore avortée, puisque ce ne sont que des presque compagnons. Renaud Barbaraz réfute, et peut-être que c'est aussi mieux que ce soit des presque compagnons, parce que sinon on se retrouve aussi avec une homogénéité qui aplanit tout. Donc Renaud Barbaraz réfute donc ici le concept englobant, omni-englobant de chair du monde pour réhabiliter la différence, une différence fondamentale entre mon corps, Leib, et les autres corps, cœur-peur. L'analogie est ici démasquée comme fondement vicié d'une phénoménologie qui s'avère finalement incapable de mettre en valeur une homogénéité entre les corps fantastiques humains et les corps fantastiques non humains, de sorte que la dimension fantastique des seconds semble devoir être attribuée en fait à une projection indue, avortée, de pouvoirs fantastiques issus du corps humain. Dans plusieurs passages, en fait, les textes de Merleau-Ponty prêtent le flanc à cette critique. Par exemple, la chair du monde n'est pas, je cite ici, hein, la chair du monde n'est pas se sentir comme ma chair. Elle est sensible et non sentant. Je l'appelle néanmoins ma chair. Je l'appelle néanmoins chair, pardon. Donc là, ça oscille quand même beaucoup. Hein. Et dans la nature aussi, avec le concept de chair du monde, notre corps est pris, comme dit Merleau-Ponty, mesurant étalon du monde. Et dans le visible et l'invisible, l'épaisseur du corps, loin de rivaliser avec celle du monde, est au contraire le seul moyen que j'ai d'aller au cœur des choses en me faisant monde et en les faisant chair. Je crois que le problème réside ici moins dans l'idée de chair du monde que dans certaines formulations, en effet, trop anthropocentriques dont Merleau-Ponty est bien responsable. Nous ne partons jamais, en fait, d'une chair du monde ou d'une chair humaine dotée de pouvoirs singuliers. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Hein. La structure thème, variation, flottement fantastique est ontologiquement première. Et donc décrire le concept de chair du monde par une sorte de transposition, me semble-t-il, est effectivement voué à l'échec. Et c'est effectivement ce qui a pu conduire à beaucoup de malentendus à propos de Merleau-Ponty. Donc elle n'est pas la structure thème, variation, flottement fantastique n'est pas une identité où tout se résorbe. Elle n'est pas une uniformité. Elle n'est pas une nuit où toutes les vaches sont noires. Il y a des corps fantastiques, non seulement individuellement en voie de distinction, mais aussi des catégories en voie de distinction. Les corps fantastiques animaux ne sont pas les corps fantastiques végétaux, ce ne sont pas les corps fantastiques inertes, ce ne sont pas les corps fantastiques humains, etc. Tous sont néanmoins susceptibles d'entrer en résonance les uns avec les autres, voire de se métamorphoser les uns dans les autres. Ah, on parlait du ciel qui finalement prend possession de moi quand je perçois le ciel. Métamorphose ici est le terme qui me semble le plus juste puisque l'identité n'est pas fixe et se laisse emporter par une manière d'être, hein, celle du ciel ou des eaux dormantes par exemple chez Bachelard. Donc c'est bien une métamorphose qui affecte l'être fondamental, la capacité d'être plusieurs et flottant qui appartient à tout être et non pas une simple manière de parler qui est serrée par une figure de style, simplement d'identifier deux êtres en soi irrémédiablement différents. Donc même l'expression « un lapin dans le chapeau ou dans le foulard », c'est une description un peu trop substantialiste, me semble-t-il, pour une phénoménologie qui nous ramène en fait toujours au flux héraclitéen, hein, justement à ces corps fantastiques. Alors, je m'achemine vers ma conclusion. voilà, donc je me suis efforcée de montrer que tout au contraire, avec le concept de corps fantastique, on peut soutenir l'exigence de retour aux choses mêmes, de dire ce qui est, hein, et que finalement, cette exigence reste bien intacte pour la phénoménologie. Les choses mêmes sont en effet, en elles-mêmes, des corps fantastiques, certes métamorphiques, mais aussi doués néanmoins de leur autonomie et de leur cohérence tenace. L'ambition eidétique, me semble-t-il, pour toutes ces raisons, est toujours une clé de la phénoménologie. Les essences sont ces lignes de structure au cœur des choses mêmes. Elles ne seront pas connues par des concepts rigides, mais plutôt via un processus d'ajustement entre des concepts provisoires morphologiques. Et cette connaissance, en fait, est la seule digne de ce nom. Parce qu'elle est clarté maximale, en tout cas ce qu'on peut espérer de mieux quand on est dans un monde flottant. et néanmoins représentation, c'est-à-dire qu'il y a quand même une expression, une pensée, une analyse de conceptualisation et une prise dynamique sur le réel. Alors, Sparrow se moque de ce qu'il appelle la rhétorique du concret en phénoménologie. Les phénoménologues, dit-il, essayent de faire tenir une illusion d'engagement réaliste là où ne subsiste en fait que de l'idéalisme. Alors ça me semble effectivement très, très caricatural comme critique. Le dépassement du réalisme et de l'idéalisme n'est pas un artifice rhétorique et la phénoménologie n'est pas le kantisme, en tout cas pas le kantisme idéaliste qui n'examine que le monde en tant qu'il s'harmonise d'avance à la connaissance rationnelle. Mais ce concept de rhétorique du concret, utilisé pour qualifier péjorativement, la phénoménologie me semble en fait particulièrement intéressant en ce qu'on peut, on peut le retourner contre son auteur. En fait, tout discours réaliste, tout discours sur le réel est condamné à la rhétorique, puisque c'est par essence un paradoxe. Avancer une thèse réaliste, c'est mettre en scène une pensée, un discours capable de dire le réel. Ce qui devrait en même temps rester reconnu dans son indépendance à l'égard de tout discours et de toute pensée. Donc, de toute façon, on est toujours au cœur du paradoxe. Mais on peut définir ce paradoxe du réalisme d'une façon un peu moins pleine de ressentiment. Il n'y a aucune raison d'exclure la rhétorique du réel et le réel de la rhétorique. Donc voilà, oui, non, je m'en tiens là.